Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouveau Entre Midi et Science. Il est 12h30 pile, donc voilà, s'il y a quelques retardataires, je prends la parole le temps qu'ils puissent se mettre en place. Hein. Je tenais tout d'abord à remercier la médiathèque qui nous accueille dans cette salle, parce que une partie de la galerie Eureka est actuellement en cours de rénovation. Donc nous sommes en train de refaire notre espace permanent. Donc des travaux qui vont durer à peu près une dizaine de mois. Et donc un espace tout neuf va vous accueillir à partir du mois de décembre, avec comme axe fort les transitions montagnes. Ça tombe bien parce que c'est un petit peu la thématique de la discussion du jour. Pour poser le cadre de ce nouveau Entre Midi et Science, hier soir à la radio j'entendais une étude toute récente de Météo France qui nous expliquait que nous ne verrons plus, enfin en tout cas progressivement, nous n'assisterons plus à des épisodes froids. Alors cette information ne m'a malheureusement pas vraiment surpris quand on regarde un petit peu les travaux du GIEC depuis ces 20 dernières années sur l'évolution du climat, mais ça nous pose quand même une question aujourd'hui sur l'évolution de nos territoires de montagne. Et c'est un petit peu les questions que nous voulions vous poser aujourd'hui, à savoir est-ce que nos stations de ski se sont préparées à cette évolution plutôt rapide? Quelles sont les perspectives qui s'offrent à nos territoires de montagne? Et est-ce qu'on peut imaginer d'autres formes de tourisme au-delà du tout-ski? Voilà quelques questions qui nous animent, mais bien d'autres, et c'est l'objet de ce café débat. Pour en parler, nous avons invité deux géographes. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Oui. Mélanie Duval, vous êtes chargée de recherche, et Christophe Beauchon, vous êtes professeur des universités au laboratoire Editem de l'université Savoie-Mont-Blanc. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le principe des Entre Midi et Sciences, durant 30 minutes à peu près, nous vous laissons la parole pour nous présenter un petit peu les grands enjeux de cette thématique. Et puis nous garderons les 30 minutes suivantes, ou ce qui restera du temps, jusqu'à 13h30 précisément, pour justement vous poser quelques questions, voire débattre sur ce sujet. En tout cas, merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Et sans plus tarder, je vous donne la parole à tous les deux.
Merci Jean-Yves pour cette invitation. Merci à tous d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous aujourd'hui. Donc on est sur un format très court et qu'en plus on va partager en deux. Donc il va falloir gérer les frustrations parce que par définition on ne pourra pas approfondir toutes les thématiques sur cette question qui est très vaste. Et en même temps je voulais commencer par l'idée aussi que c'est une question qui est aujourd'hui devenue très sensible. Hein, et quand on est universitaire, on est un peu dans un monde détaché des contingences matérielles, économiques, on ne se rend pas forcément compte. Et à l'occasion de cette causerie d'aujourd'hui, on a pu toucher du doigt combien cette thématique était sensible, dans la sphère publique, hein, et combien elle faisait débat. Puisque quand Jean-Yves nous a proposé d'intervenir aujourd'hui devant vous, ça fait partie un petit peu du cahier des charges. On propose un titre et on propose un petit texte de présentation. Et donc, dans un premier temps, c'est le texte qu'on a fait remonter à la galerie Eureka, sans penser à mal ou en essayant de faire même plutôt pour le mieux, sans penser que ce petit titre et ce petit texte pouvaient poser problème. Et ce qui est très intéressant, parce que nous, on fait un peu notre miel de tout ce qui nous arrive, hein, c'est que quand la galerie Eureka a fait remonter cette proposition de programmation au cabinet de la mairie, c'est revenu avec des avis extrêmement négatifs. Il fallait qu'on refasse notre travail parce que on avait employé des mots qui étaient peut-être trop anxiogènes, qui étaient peut-être trop polémiques, et donc on arrivait là de façon un peu trop brutale. Et c'était notre corps défendant, parce que c'était pas mon intention. Si je veux faire un texte au vitriol, je peux faire aussi, mais c'était pas l'idée. Donc effectivement le terme de panique, le terme d'impasse étaient des termes qui étaient jugés comme trop négatifs et qu'il fallait pas qu'on s'embarque sur cette tonalité là. Et encore, nous sommes bien d'accord que nous ne sommes pas en parenthèse. Hein. Alors le fait est qu'à travers la communauté d'agglomération, Chambéry est partie prenante de la société mixte Station des Bauges et donc participe à la gestion du Revard, de la Fécla, des Aillons, du Margeria. Donc, de fait, on est sur un territoire qui politiquement est impliqué dans la station, dans la gestion de stations de sport d'hiver. Et alors, bon, en même temps, on n'est pas non plus obstiné. Donc, on a pris une lime, hein, on a limé tout ce qui pouvait dépasser, et puis on a proposé un texte qui était plus consensuel et qui ne posait pas de problème. Mais voilà, ça, c'était pas pour vous faire rentrer simplement dans l'arrière-boutique, mais c'est pour vous montrer que c'est quand même des questions avec lesquelles il faut prendre certaines précautions, autrement, ben, on rencontre hein, des gens qui vont se sentir heurtés par tout cela. Alors, on a un contexte que l'on connaît, qui est aussi un petit peu celui qui a rappelé Jean-Yves, qui est un contexte qui est fortement marqué par le réchauffement global. On a un contexte d'inquiétude autour du tourisme de sport d'hiver qui n'est pas nouveau. Hein. Je pense que c'est en 2004 qu'il y a eu au manège une conférence qui a été organisée sur « Ferons-nous encore du ski à Noël 2030 ?» Donc c'est des choses qui sont quand même présentes de façon relativement ancienne hein, dans la réflexion autour de la pérennité du modèle de tourisme autour des sports d'hiver. Et on a bien vu globalement, à la charnière des années 2010-2020, que sans doute la prise de conscience de certains problèmes qui étaient au devant desquels on allait, cette prise de conscience s'accélérait. Hein. Moi je me souviens d'une thèse que j'ai encadrée en 2016 d'Anouk Bonnemain, pour le coup, en parenthèse, auprès des acteurs des stations de sport d'hiver, pour qui il n'y avait pas de problème, et a priori, il n'y avait pas de raison pour qu'il y ait de problème. Et aujourd'hui, les acteurs ne tiennent plus exactement le même discours, donc il s'est passé moins de 10 ans, hein, et effectivement, il y a eu une évolution dans la façon dont ces choses-là sont appréhendées. Et puis, il y a toute une série d'évolutions culturelles, hein, parce que tout mettre sur le dos du réchauffement global, c'est une erreur. Il y a une série d'évolutions culturelles. Alors, je ne suis pas un lecteur assidu de Elle, mais par exemple, ici, je crois que c'est un numéro de décembre 2022. Sigourney Weaver, elle y est pour rien. Mais en une, hein, c'est bien marqué yoga, du froid, de la spéléo, de l'escalade, tout sauf le ski. Alors ça, c'est très présent depuis 2-3 ans, mais on assiste effectivement à une espèce de campagne non organisée, hein, j'imagine, mais de discrédit très fort sur l'activité de sport d'hiver, comme quoi c'est quelque chose qui n'aurait plus lieu d'être, et dans des cercles journalistiques à Paris, on parle déjà de ces activités-là au passé. Hein. Moi, je me souviens, il y a un an et demi, j'ai fait une émission à France Culture, et entre deux prises de micro, hein, un moment où les micros étaient éteints, l'animateur, il me dit « Mais de toute façon, du ski, on n'en fait plus !» Alors, on était mi-février, je crois que j'avais fait déjà 5 ou 6 sorties, j'ai essayé de lui dire que ben, moi, en tout cas, je continuais à en faire un petit peu, et je pense qu'il ne m'a pas cru. Hein. Donc, il y a des gens pour qui c'est déjà quelque chose qui est du passé. Donc, c'est compliqué aussi hein, de discuter de ces questions-là, entre les sensibilités, on va dire, socio-économiques, des représentations qui ont déjà considérablement évolué, et en particulier dans des milieux qui sont un petit peu éloignés hein, de ces questions. Et donc, on assiste aujourd'hui à une espèce d'injonction paradoxale hein, qui est extrêmement forte. Et moi, je vous avoue que dans ce contexte, je suis bien content de ne pas être gérant de remontée mécanique, de ne pas être porte-parole de Domaine Skiable de France. J'ai aucun lien avec les milieux professionnels hein, de ce point de vue-là. Mais je constate aussi que, de fait, ils sont quand même dans une situation qui est très compliquée. Hein. Et même si on voit bien que certains aménagements paraissent déraisonnables, hein, en même temps, bon, n'étant pas moi-même par ailleurs économiste, je rechigne à leur jeter la pierre trop facilement parce que être dans une injonction aussi paradoxale, c'est très compliqué. Hein, parce que du point de vue des emplois, du point de vue de l'activité économique, dans un département comme la Savoie surtout, mais ça vaut pour d'autres départements des Alpes et des Pyrénées, il y a quand même tout un contexte socio-économique, entrepreneurial, qui leur demande de continuer hein, leur activité, de fonctionner, parce qu'il y a de l'emploi, il y a beaucoup de rentrées d'argent, etc. Et donc, on voit bien, par exemple, le conseil régional tel qu'il est en place depuis 2016, hein, et c'est vrai aussi en PACA, hein, c'est pas vrai qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, mais qui a continué à alimenter considérablement hein, en crédit public le domaine du tourisme de sport d'hiver, parce que c'est un des piliers de nos économies. Et en même temps, on a toute une série, des fois les mêmes ou d'autres interlocuteurs, qui prédisent que le système court à sa fin, que de toute façon c'est voué à l'échec, qu'ils n'en ont plus pour très longtemps, et que il faut se préparer à mettre la clé sous la porte et à tout fermer. C'est compliqué, hein. Je veux dire que notre société, elle produit aussi ce genre d'injonction très paradoxale, et que c'est très difficile de donner satisfaction à des demandes qui sont aussi contradictoires les unes que les autres. Hein. Alors, quelles sont les pistes d'évolution qui aujourd'hui se dessinent par rapport au tourisme de sports d'hiver? Il y en a d'assez nombreuses, hein, qui des fois sont compatibles ou des fois ne sont pas compatibles entre elles. La diversification, on en parlera un petit peu dans la deuxième partie de la conférence. La question de remettre en cause le modèle de saisonnalité, hein, là on parle de tourisme 4 saisons, le poids plus important de l'été. En vérité, quand on parle de tourisme 4 saisons, c'est surtout été-hiver, hein, parce que on ne comprend pas très très bien comment dans nos montagnes, les Alpes du Nord, on attirait beaucoup beaucoup de touristes en octobre et en novembre, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà vous promener à Val Thorens en octobre, c'est compliqué, hein, pour des tas de raisons. En tout cas, des saisonnalisations qui a un argument très très ancien, hein, dans les années 70, on vendait déjà les stations qu'on construisait comme des stations d'été, hein, avec des tennis, etc. Changement de paradigme des pratiques, c'est-à-dire que progressivement, ça s'est déjà en partie acté, mais les sports d'hiver qui fonctionnaient sur des valeurs, en quelque sorte, sur des modèles qui étaient plutôt sportifs, de compétition, ont glissé de plus en plus vers des valeurs plutôt ludiques, hein, d'amusement, avec la folie douce, avec la sonorisation des pistes. Donc on voit bien que, de ce point de vue-là, le produit tourisme de sport d'hiver, il a beaucoup évolué au cours des 20 dernières années. On assiste aussi, là j'ai pas le temps de développer, mais à des réorganisations spatiales qui sont intéressantes, parce que vous avez certaines stations qui, ayant peur du réchauffement et de la remontée de l'isotherme en altitude, vont aller chercher à remonter leur remontée mécanique le plus haut possible, et y compris à remonter leur front de neige. Hein, aujourd'hui, les fronts de neige posent beaucoup de problèmes d'enneigement, et donc vous avez des stations qui vont remonter l'espace Piu-Piu, etc., à mi-hauteur, par exemple, hein, du domaine skiable, pour avoir un enneigement meilleur. Donc voilà, il y a beaucoup de... Quand on parle d'adaptation, hein, en réalité, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans ce sens-là. Et puis... Des tendances qui sont relativement opposées, hein, soit d'aller vers l'intensification du système, toujours plus d'investissements, je vais en parler tout de suite, ou alors au contraire vers l'extensification, vers quelque chose qui soit un peu moins intensif d'un point de vue économique. Et entre autres, il y a une évolution qui est intéressante, même si c'est difficile de savoir son degré de pérennité, c'est la gestion de petites stations en général, par des associations, hein, ce qui est quand même très intéressant, aux Granier, aux Entremonts, à Saint-Hugues de Chartreuse, où les logiques purement économiques et commerciales ne fonctionnent plus, hein, globalement on fait faillite, et donc ce sont des associations locales qui ont repris sur d'autres modèles de fonctionnement les remontées mécaniques, le travail des pistes, etc. Donc ça c'est très intéressant. Après, ça pose un problème certainement de pérennité, parce que ces associations, elles peuvent faire fonctionner l'existant, mais on imagine qu'elles auront beaucoup de mal à recapitaliser à un moment l'outil de production, et donc à changer Bon, c'est peut-être une phase de transition qui n'est pas forcément pérenne. Alors, en allant chercher les chiffres qui sont publiés chaque année dans Mountain Leader, hein, je vous donne juste quelques indications sur la tendance quand même très forte à la poursuite de l'intensification et de la course à l'armement, hein. Vous voyez là, sur les 6 dernières années, le niveau des investissements faits par les exploitants de remontées mécaniques, avec un petit creux sensible pour les années Covid, vous voyez que sur l'année 2023, les chiffres 2024 à ma connaissance ne sont pas encore publiés, les 100 plus grands domaines skiables en France ont investi pour 546 millions d'euros, à la fois remontée mécanique, travail de la neige, damage, etc. Et dans les rubriques, hein, qu'ils distinguent, vous avez une rubrique loisirs, diversification. Vous voyez que ça reste quand même extrêmement modeste, hein, comme part, puisque ça a un petit peu augmenté, mais en 2023, c'était autour de 4% de l'ensemble des investissements. Donc par rapport à tout ce qui va être investi dans des remontées mécaniques, etc., globalement, une piste de luge sur rail comme on voit sur la photo en bas à gauche, c'est entre 3 et 4 millions d'euros. Ça veut dire que l'essentiel de ce budget autour des loisirs diversification, c'est 3 ou 4 stations qui auront construit dans l'année une piste de luche sur rail. Hein, puis après, des petites choses qui viennent à côté. Sur cette question de l'intensification, de la course à l'armement et du côté raisonnable ou déraisonnable, on est sur une augmentation très importante des budgets d'investissement, hein, puisque vous voyez par exemple que sur l'ensemble des téléportés, télésièges, télécabines, télémix, etc., qui sont construits chaque année en France, on est passé en moyenne d'un coût d'appareil de 6,2 millions en 2018, à aujourd'hui, si je sors de la statistique, un monstre extraordinaire qui est le téléphérique du Gendry aux Deux Alpes, hein, si je sors de cette statistique parce que ça fausse quand même les choses, on est aujourd'hui à 13,6 millions de coût unitaire d'une remontée mécanique. Ça veut dire que le coût a doublé en l'espace de 6 ans. Donc on a effectivement des investissements qui sont de plus en plus importants, y compris de stations relativement moyennes. Donc on n'est pas dans une forme de vieillissement, contrairement à ce que disent certains collègues. On n'est pas dans une forme de vieillissement de l'appareil productif, mais au contraire de renouvellement avec des niveaux d'investissement qui sont plus élevés qu'ils ne l'ont jamais été, rapportés. Vous avez par exemple certaines stations qui, à certaines années, vont faire des investissements qui vont être l'équivalent de 2 années de chiffre d'affaires. Hein, donc c'est très 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 important. Ça a toujours été une industrie touristique très capitalistique et ça l'est resté aujourd'hui avec la montée en gamme et en prix des machines. Et si je prends un type de machine en particulier qui sont les télésièges débrayables, vous voyez qu'on est passé en 6 ans de 6,4 millions à 8,9 millions pour des appareils équivalents. Donc là, on est dans une proportion qui est un petit peu moindre. Donc les gens qui, de ce point de vue-là, qu'est-ce qui se passe après ? Les gens qui, de ce point de vue-là, effectivement alertent sur le côté peut-être déraisonnable, hein, de ces investissements par rapport aux tendances et aux projections, on comprend effectivement que cette critique, elle a certaines raisons d'être. Hein. Alors les investisseurs, ils sont sur des retours sur investissement de 20 ans, 25 ans. Et globalement, voilà la difficulté, hein, à travers cet effet ciseau, hein, dans laquelle on se trouve aujourd'hui, avec d'un côté des problèmes de plus en plus importants de continuité d'exploitation, d'exposition aux aléas météorologiques, hein, la durée de la saison, le peu de certitude qu'on a sur le commencement et la fin de la saison d'enneigement, et puis donc on avait vu la une de Elle sur la campagne de discrédit assez fort, hein, dans la presse autour des sports d'hiver, et puis en même temps et à l'inverse des investissements qui sont de plus en plus importants, des coûts d'exploitation qui augmentent avec une recherche de montée en gamme aussi de l'équipement, et ça globalement avec un volume d'activité qui est à peu près le même d'année en année. J'ai mis autour de 50 millions de journées skieurs, des fois c'est 52, des fois c'est 55, ça monte, ça descend, ça dépend un peu du calendrier des vacances scolaires. Mais voilà, économiquement, comment on arrive à tenir cette position avec cet écart de plus en plus important entre les coûts d'exploitation et les aléas qui pèsent sur les chiffres d'affaires des stations. Alors l'une des pistes évidemment importantes, c'est la piste de la diversification sur d'autres créneaux d'activité. Et sur ce point, je passe la parole à Mélanie.
Donc évidemment, dans le temps qui nous est imparti, on ne peut pas tout explorer. Donc ce qu'on vous propose dans ce second temps, c'est de faire un focus sur la Haute-Maurienne et sur un type de patrimoine qui pourrait être support de diversification touristique, à savoir ici des sites d'art rupestre. Donc c'est un choix qui est aussi lié aux travaux réalisés au sein du laboratoire Editem, où on a la thèse de Johan Collange, qu'on a co-encadré avec Christophe et aussi François Hugues d'un laboratoire grenoblois là, du LSM. Qui était donc sur dans quelle mesure en fait ces roches gravées pouvaient constituer une piste de diversification touristique en Haute-Maurienne. Donc ce que je vais vous présenter maintenant, c'est en très synthétique les résultats de son travail. Donc bien sûr, hein, y a plein d'autres types d'éléments qui pourraient être activés comme ressources touristiques. Là, les sites d'art rupestre, c'est lié à ce travail de thèse, mais en Haute-Maurienne, vous avez aussi les forts, vous avez l'art baroque dans une certaine mesure qui a été activé comme ressource également touristique, en lien aussi avec les actions de la FACIM. Donc là, encore une fois, c'est des choix compte tenu du temps qu'on a pour vous parler et aussi des travaux qui ont été réalisés. Donc c'est pas du tout exhaustif, hein, en termes de mobilisation du patrimoine culturel. Là, c'est vraiment un focus qui est réalisé et donc, on essaie de vous présenter les résultats. Donc l'objectif dans la thèse de Johan, c'était de voir dans quelle mesure ces différents sites d'art rupestre ils pouvaient justement être une piste de diversification et dans quelle mesure les acteurs les percevaient comme une piste de diversification. Ou est-ce qu'on avait déjà des freins en termes de jeu d'acteurs, en termes de perception, qui expliquaient la difficulté à faire émerger ces sites d'art rupestre comme diversification. Alors, ce que vous avez ici sur la carte, hein, c'est l'ensemble des sites soit à cupules que vous avez ici en rouge, soit ici des éléments gravés ou peints qui sont ici en orange, avec certaines formes d'aménagement. En fait, la mobilisation des sites d'art rupestre dans des logiques de développement touristique, elle n'est pas récente, elle date des années milieu des années 90. Où vous aviez déjà l'aménagement de différents dispositifs qui sont toujours existants. C'est ceux que vous voyez ici. Donc, vous avez eu notamment ici, là, le parc des Lauzes, qui est au niveau d'Aussois. Là, on est au début des années 2000. Là, vous avez le rocher du château, avec un site d'art rupestre, donc avec des représentations peintes. Là, on est à 2004-2005. Et donc, ces différents éléments, ils ont été activés à ce moment-là. Et puis, Johan a essayé de voir ce qu'il était advenu de ces différents éléments. Sachant que quand on réfléchit sur ces questions de patrimoine et de tourisme, il y a une des questions qu'on se pose, c'est déjà dans quelle mesure ça fait patrimoine. C'est des sites archéologiques, c'est du patrimoine pour les archéologues, mais dans quelle mesure est-ce que ça fait patrimoine pour les gens qui habitent en Haute-Maurienne? Est-ce qu'ils le perçoivent comme faisant du patrimoine? Ce qui n'est pas forcément évident, hein. Tout à chacun, on a un rapport différent avec ce qui fait patrimoine. Et quand on regarde d'un point de vue institutionnel, donc qu'on appelle des processus de désignation, ça fait patrimoine pour les institutions. Les marqueurs de cela, c'est tout ce qui va être les classements comme monuments historiques. Donc vous avez des sites d'art rupestre à Lens-le-Villard et à Aussois qui sont donc classés monuments historiques avec des inscriptions très anciennes, hein, au tout début du XXe siècle pour la Roche aux Pieds et après de manière plus récente à Aussois. Donc ça, c'est des indicateurs que la puissance publique, via ici donc les institutions en charge du patrimoine, les ont identifiés comme faisant patrimoine et attribué un statut de protection. Et pour autant, vous avez plein de choses qui sont classées MH et qui ne font pas forcément patrimoine. C'est dans les différents documents d'urbanisme, on n'a pas le droit d'y toucher. Ça fait patrimoine quand vous êtes dans le périmètre et que vous voulez rénover votre maison et vos volets. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, ça ne fait pas forcément patrimoine. Et de ce point de vue-là, il y a effectivement une faible appropriation des sites d'art rupestre en Haute-Maurienne qui sont connus d'assez peu de personnes et qui ne sont pas non plus mobilisés par les différents acteurs du tourisme. Alors, pour essayer de mieux comprendre pourquoi c'est le cas en Haute-Maurienne et pourquoi, dans quelle mesure ça pourrait être autrement, il y a une approche comparative qui a été réalisée avec ce qui se fait notamment dans la Vallée des Merveilles, dans le Mercantour, où vous avez donc un tourisme autour des sites d'art rupestre. Alors, c'est un peu différent parce que les stations de ski ne sont pas juste à côté. Donc ça, c'est aussi un des facteurs explicatifs de pourquoi en Haute-Maurienne, ces sites d'art rupestre peinent à être activés comme ressources touristiques, c'est que il n'y a pas beaucoup de place pour exister à côté des stations de ski qui, paradoxalement, sont dans ce ciseau qu'a décrit Christophe. Et le ciseau, il n'est encore pas encore suffisamment tenable pour que ça prenne beaucoup de place. Donc, l'objectif, ça a été de voir comment ça se passait dans le Mercantour, dans la Vallée des Merveilles, comment était organisé le tourisme autour des roches gravées dans cet espace-là. Et aussi, vous avez un espace qui s'appelle Val Camonica en Lombardie, qui est au nord du lac de Garde, où vous avez tout un espace de gravures rupestres. Et pourquoi est-ce qu'on a travaillé sur ces deux terrains-là? C'est parce que vous avez des représentations qui sont équivalentes en termes de période, en termes de production graphique. Et donc c'était intéressant de voir pourquoi là-bas est-ce que c'est activé comme du tourisme, et pour essayer de mieux comprendre aussi des pistes qui pourraient être mises en place au niveau de la Haute-Maurienne. Alors en termes d'état des lieux, donc je vous ai dit qu'à partir du milieu des années 90, il y avait des premières formes de valorisation. Donc là c'est une carte qui les recense. Avec les roches du Til là, qui sont à côté de Saint-Michel-de-Maurienne, et ensuite on est plus sur la Haute-Maurienne avec le parc archéologique des Lauzes. Vous avez aussi des éléments de discours au musée archéologique de Solières-Sardières, la pierre au pied, les roches du lac d'Arcelles, la pierre des saints et le rocher du château. Ça, c'est tous les endroits où vous pouvez trouver des dispositifs qui vont vous expliquer ce que sont l'art rupestre. Que ce soit des panneaux, que ce soit différents itinéraires, ou des éléments sur place aussi qui vont vous présenter des informations. Donc, vous avez ici l'aménagement de la pierre au pied, par exemple, qui a été effectué donc, dans les années 1996-97. Les premiers aménagements en lien avec le parc national de la Vanoise, et donc avec une plateforme qui permet d'observer cette pierre. Vous avez des empreintes de pieds en fait qui sont gravées, qui sont excavées dans la pierre. Ici donc le parc des Lauzes, et là un autre visuel sur le rocher du château. Donc ces différents éléments qui ont connu des formes de mise en tourisme début des années 2000, ça s'est rapidement essoufflé. Du fait, en fait, du peu d'appropriation par les acteurs du tourisme, c'est-à-dire que ces différents équipements-là de valorisation, ils ont été portés essentiellement par des archéologues. Et en termes de jeu d'acteurs, là, la jonction, c'est pas suffisamment faite avec les acteurs du tourisme pour qu'il y ait une appropriation de ces dynamiques qui avaient été impulsées par les archéologues en lien avec les élus locaux. Donc il y avait un soutien du département aussi à ce moment-là, mais c'était surtout un soutien au niveau de la conservation du patrimoine. Donc il n'y avait pas de relance, pas d'enclenchement de dynamique avec le secteur touristique. Donc aujourd'hui, il y a différents freins à leur activation en tant que ressources. Déjà, sur l'ensemble de la Haute-Maurienne, donc, il y a du patrimoine, il y a différents éléments patrimoniaux, comme les forts tout à l'heure que je vous mentionnais, ou l'art baroque. Mais à ce jour, même si c'est présent et parfois très impactant dans le paysage, comme les forts par exemple, vous avez peu d'offres qui permettent de le visiter. Il y a peu d'acteurs en fait qui proposent différents itinéraires de découverte. Il y en a un petit peu avec... Il y a certains guides du patrimoine, mais qui vont officier dans des villages en particulier, donc notamment à Bonneval ou à Bessan. Là, vous allez trouver des guides, mais qui sont vraiment que sur le village. Et après, au niveau de la FACIM, il y a des essais de développement d'itinéraires, mais qui restent assez limités en termes de promotion et en termes, du coup, de fréquentation. Donc, c'est pas uniquement lié au site d'Arupa, c'est de manière générale, le patrimoine culturel est assez peu mis en avant dans l'ensemble de la vallée. Et quand on parle de diversification touristique sur l'été, ben ça va beaucoup être le VTT. Voilà, le VTT et des activités de pleine nature, on reste dans l'espace sportif et on a assez peu de choses autour de la culture. Ce qui s'explique aussi par l'intérêt des remontées mécaniques, hein, pour rentabiliser les remontées dont a parlé Christophe, ben les VTT c'est une bonne option. Donc, alors que visiter des sites d'art rupestre, voilà, les gens ils vont pas forcément emprunter les remontées pour pouvoir y accéder. Enfin, tout dépend de là où elles sont par rapport au domaine skiable. Donc ça c'est un des premiers éléments. Le deuxième, c'est que c'est un type de patrimoine, les entretiens ont révélé qu'il est perçu comme assez peu pertinent en termes d'enjeux financiers. Donc avec de mémoire des verbatim que Johan a eu lors de ses entretiens, la visite de sites d'art rupestre, ça permettra jamais de faire cracher autant d'argent que des forfaits de ski. Donc on est dans cette relation-là, donc c'est pas perçu comme quelque chose de suffisamment rentable. Ça s'explique aussi par rapport à la révolution que les sports d'hiver ont amené sur ces territoires de montagne sur un temps très court. On est passé d'une économie agricole à une industrie touristique avec un renversement assez important en fait de toutes les échelles. Et est-ce qu'on a aussi un fort attachement à ce type-là de système, d'autant plus qu'il a été à ce point-là rapide en fait dans l'espace temps. Et donc c'est difficile de trouver quelque chose qui soit aussi rentable, ou en tout cas de le percevoir comme étant suffisamment rentable. Parce que dans les faits, on peut très bien imaginer toute une question aussi d'image, hein, mais la manière de présenter le territoire, de le mettre en avant, ça peut donner lieu après à des équipements qui vont rendre compte de ce qu'est le patrimoine, par exemple des sites d'art rupestre. Vous avez peut-être en tête des grottes qui sont fermées au public, vous allez avoir des espaces de médiation, de restitution. On peut imaginer ce type-là aussi d'équipement, de coupler ça avec de la réalité augmentée. Il y a des choses qui peuvent être faites, mais ça dépend aussi du terreau sur lequel vous allez inscrire cet équipement. Donc après, un autre facteur limitant, c'est au niveau des jeux d'acteurs. Que vous avez encore une forte, une assez forte disjonction entre les acteurs du patrimoine archéologique, donc essentiellement les archéologues, soit du département ou les archéologues professionnels ou amateurs qui vont donc être investis dans la production de connaissances, et les autres types d'acteurs du territoire. Vous avez assez peu de dialogue en fait entre ces deux sphères, qui explique aussi qu'il y ait du mal à faire émerger ces sites d'art rupestre comme ressources touristiques. Et que ça reste comme un patrimoine qui reste en marge de ce modèle-là. Donc je vais aller un petit peu plus vite parce que je vois qu'on est arrivé au bout de la fin du temps. Depuis peu, c'est-à-dire quand je dis peu, c'est 2 ans, donc voilà, il manque un petit peu de recul pour voir ce qu'il en est. On assiste quand même à une certaine forme d'articulation entre les différents acteurs du territoire et une nouvelle forme de sensibilisation. Déjà, il y a des soutiens qui ont été mis sur la reprise de recherche scientifique, où on va faire des modèles 3D des différentes roches pour avoir des relevés numériques, par exemple, ou les reprendre leur localisation pour avoir des bases de données. Ça, c'est un exemple. Après, il y a des instruments européens qui ont pu être mobilisés pour faire converger en fait les intérêts de différents acteurs du territoire, et notamment dans une des salles du fort Victor Emmanuel à Aussois. Ici, vous avez eu la mobilisation d'un projet européen, donc Alcotra, donc franco-italien. Ils ont réussi à flécher une partie de l'argent pour faire d'une pierre deux coups, à la fois rénover une partie du fort, électrifier une partie des salles, et dans les salles qui sont électrifiées, d'en mobiliser une pour penser à un espace d'interprétation sur l'art rupestre. Donc vous avez cet élément-là qui a ouvert il y a 2 ans et qui résulte de cette convergence et cette opportunité donnée par l'Interreg. Après, le problème des projets européens, c'est qu'il y a de l'argent pour l'investissement, mais il n'y a pas d'argent pour le fonctionnement. Donc si derrière le territoire ne s'approprie pas davantage ce type de patrimoine que ce qui n'a été le cas il y a 20 ans, dans les années 2000, quand il y a eu les premiers équipements qui ont été faits, bah, potentiellement, ça peut poser un souci, puisque là, il y a cet espace qui a été créé. Mais s'il n'y a pas d'appropriation qui se met davantage en place, je ne sais pas, peut-être qu'il y a un vidéoprojecteur avec une ampoule à 6000 euros et que bien après, on ne pourra pas changer. Donc, c'est ce qui peut arriver avec les différents projets européens. C'est toujours un peu le problème entre investissement et fonctionnement. Donc ça, c'est des visuels de cet espace qui a ouvert, qui a très bien marché l'année de son ouverture. Donc à voir après comment est-ce que les acteurs vont s'en saisir pour aussi faire du réseau. Alors, il y a plusieurs pistes qui peuvent être évoquées en lien aussi avec d'autres travaux qu'on a conduits sur d'autres types de patrimoine, notamment de mettre en place des éductours et d'emmener les acteurs de Haute-Maurienne, par exemple, en Val Camonica ou dans le Mercantour, pour voir comment ça se passe. C'est des choses qu'on avait, sur lesquelles on avait travaillé avec les acteurs d'Aiguebelette par rapport à la valorisation des villages lacustres en organisant des éductours en Suisse, à Neuchâtel, par exemple. Mais bon, ça pose la question d'un portage politique derrière, parce que qui va payer l'éductour ? Donc, est-ce que c'est la communauté de communes ? Est-ce que c'est le département ? Enfin, c'est le rôle de qui ? Est-ce que c'est les stations de ski qui peut-être vont dire ça serait bien de les soutenir pour qu'ils aillent voir autre chose et qu'on pense d'autres types de tourisme. Et puis quelque chose qui est assez simple aussi, c'est tout ce qui va être les ouvrages grand public et jeunesse qui participent à l'appropriation de ce qui fait patrimoine. Vous connaissez certainement cette collection. Ça participe aussi à parler du territoire à ces jeunes publics et à diffuser de nouveaux types de regards. Ensuite, il y a tout ce qui est au niveau du marquage territorial. Là, c'est des exemples dans le Mercantour, donc autour de Tende, où vous avez donc des graphismes qui sont inspirés des roches gravées, qui vont être déclinés sur l'ensemble de l'espace et qui participent aussi de ce lien entre les roches gravées et un espace. Alors, du coup, au soi, ils ont commencé là depuis l'année dernière. Ils ont repris des bouquetins et il y a dans les devantures des magasins, on commence à trouver des visuels, il y a des blasons, des pins aussi qu'on peut mettre sur différents supports, il y a une petite médaille, donc ça commence à investir ce créneau-là. Ensuite, il peut y avoir la possibilité aussi de coupler et de travailler avec les acteurs de moyenne montagne, les accompagnateurs de moyenne montagne, notamment de leur apporter en fait de la connaissance, parce que c'est assez facile dans une randonnée en fait de passer à proximité de sites d'art rupestre et de faire découvrir ce type de patrimoine. Mais les acteurs avec les accompagnateurs avec lesquels on s'est entretenu nous ont fait part de leur manque de connaissances ils se sentent pas légitimes en fait pour aborder ces questions. Donc là, ça rejoint ce que je vous ai dit juste avant sur les deux sphères qui sont dissociées entre les archéologues et les acteurs, les sociopros de l'autre côté. Donc là aussi, on pourrait penser d'organiser des sessions, de formation, etc. Mais ça pose aussi la question du partage politique et économique pour l'organisation de tels événements. Et puis la création d'événementiels qui lient des publics famille, sport et culture. Ça, c'est un bon moyen aussi de toucher un très grand public en variant les plaisirs. Ça c'est des exemples pour terminer, notamment au niveau du Mercantour, les accompagnateurs de moyenne montagne, ils sont organisés dans une association, donc Merveille, Gravure et Découverte. Les sites d'art rupestre dans le Mercantour, vous pouvez aller les visiter tout seul, vous n'avez pas besoin d'être accompagné. Vous avez le long du chemin, vous avez différents panneaux qui vont vous livrer du contenu de base. Et après, si vous voulez avoir une visite guidée, donc vous passez par cette association qui regroupe des accompagnateurs de moyenne montagne qui sont agréés par les services de l'archéologie et le parc national du Mercantour. Ils ont tous travaillé ensemble en fait pour mettre en place cette association, cet agrément. Et là, vous avez une visite approfondie donc qui couple l'effort physique avec une randonnée et en même temps la découverte de ces sites d'art rupestre. Et là, vous avez le droit de sortir des sentiers qui sont tracés pour aller voir des sites qui sont un petit peu plus loin en étant accompagnés. Donc ça, c'est des pistes aussi qui pourraient être déclinées dans d'autres types de territoires. Donc je vais m'arrêter ici, ben voilà, ça tombe bien. C'était la dernière diapo. On vous remercie de votre attention et nous aurons grand plaisir à répondre à vos questions.
Il y a deux micros, donc je m'en pars d'un. Qui veut peut-être. Merci en tout cas, Mélanie, merci Christophe, pour nous avoir éclairé sur un certain nombre d'enjeux du tourisme doux. Qui voudrait peut-être prendre la parole pour amener à. Peut-être d'abord quelques questions, quelques précisions par rapport à ce qui était dit, et après peut-être entamer un débat.
Bonjour, tout d'abord merci pour votre intervention. Je suis étudiante en droit public et développement durable de la montagne à Chambéry. Et on travaille actuellement sur le sujet de l'avenir des stations de ski en montagne. Et je me demandais en quoi le développement du tourisme 4 saisons est-il une réelle solution pérenne à l'aune du développement durable, dans le sens où est-ce que ça risque pas une intensification du surtourisme de certains sites ? Et est-ce qu'il ne faudrait pas mieux développer l'écotourisme ? Je ne sais pas, c'est un débat. Et une autre question qui s'ensuit serait de demander si le droit permet-il d'encadrer cette évolution et s'il ne pousse pas vers s'il y a des systèmes juridiques qui peuvent permettre une transition écologique du tourisme en montagne. J'espère que ça c'est clair comme question. Merci.
La deuxième partie de la question sur l'aspect juridique, je ne suis pas capable de répondre parce que c'est des notions qui m'échappent complètement. Sur la première partie de la pertinence ou non des formes de diversification et entre autres sur l'été, vous avez des points de vue critiques hein, qui s'expriment. Si vous voulez les résumer en une phrase un peu provocatrice pour le coup, on peut craindre que la presqu'île soit pire que le ski. D'un point de vue environnemental, parce que c'est vrai que des fois il se développe des choses quand vous avez cascade de tyroliennes, d'un point de vue de l'impact pour la vie faune, pour le paysage, on n'est pas forcément sûr que ce soit beaucoup mieux qu'une remontée mécanique avec une piste de ski. Donc c'est vrai que les solutions, si l'on veut, hein, vers lesquelles on s'achemine, la piste de luge sur rail métallique, d'un point de vue paysager, c'est quand même quelque chose de très discutable. Hein, c'est pas du tout la panacée. Après, il faut bien voir que si on est dans une ambiance un petit peu de sauf qui peut par rapport à des questions de chiffre d'affaires, c'est vrai que par rapport à il y a 20 ans, on a quand même beaucoup modifié la perception qu'on a, par exemple, du VTT, de l'ouverture des remontées mécaniques l'été. C'est-à-dire que, moi je me souviens, je pense en 2000 ou 2001, on a visité Méribel avec un collègue, et globalement, la tonalité, c'était tout le chiffre d'affaires de l'été des remontées mécaniques sur Méribel ne vaut pas un samedi d'hiver. Donc c'était de l'animation à fond perdu pour faire vivre la station. Économiquement, c'était irrationnel. Et aujourd'hui, vous avez des stations, alors pas toutes, hein, mais certaines qui ont vraiment renforcé une image autour du VTT. Vous avez des stations qui font 20 à 25% de leur chiffre d'affaires remontée mécanique sur l'été. Donc c'est devenu quelque chose, non plus à fond perdu, et de significatif même dans le bilan d'activité. Donc, alors c'est pas une vraie diversification, hein, dans le sens où ça repose globalement sur les mêmes fondamentaux que ce qui se passe l'hiver, mais en même temps, ça permet aussi d'ancrer des emplois qui globalement sont les mêmes, avec les mêmes types de compétences techniques. Donc voilà, ça fait partie de la complexité du problème. Hein. Bon, vous savez, est-ce que... Globalement, on est dans une crise d'hyperspécialisation industrielle. Je veux dire, on est dans la situation de la sidérurgie lorraine des années 80. Hein. Et la question qui se pose, c'est qui se posait il y a 40 ans, c'est comment on fait pour reconvertir tous les sidérurgistes en animateurs du parc de loisirs Schtroumpf. La question a été posée il y a 40 ans. Et vous pouvez la transposer exactement de la même façon. On a 18 000 à peu près emplois autour des remontées mécaniques. Et ces gens-là, on les reconvertira pas tous dans des activités de tourisme doux, de promenade autour des pierres gravées. Donc voilà, il y a des enjeux économiques, sociaux, et personne n'appréhende ça de façon aisée.
Je me permets. Bonjour, merci pour vos interventions. Donc Pascal Marchand, juste, vous avez présenté dans les mesures d'adaptation à la transition climatique le phénomène d'intensification. Il paraît vraiment peu rationnel, vous le soulignez avec votre courbe de croisement, de croire qu'il puisse s'agir d'une adaptation, puisque en fait il s'agit de pousser des dépenses d'investissement et de fonctionnement derrière, et d'obliger d'une certaine façon à une rentabilité sur un modèle dont on sait qu'il n'est pas durable. Du coup, quel est l'argumentaire qui peut être retenu pour dire que c'est un phénomène d'adaptation rationnelle? Deuxième sujet, c'est que tout ça se passe en fait sous forme publique en réalité. Beaucoup des sujets portés, quasiment la totalité en fait, des sujets portés qui après suscitent un système économique autour de tourisme, mais sont portés par de l'investissement public. La Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes souligne que dans les 7 structures publiques qu'elle a contrôlées sur la période de temps qui correspond à sa mandature, 5 sont des stations qui sont déficitaires. Donc en réalité, le problème du déficit devrait plutôt inciter à ralentir et à aboutir à une préoccupation d'orientation, et notamment publique, puisqu'il s'agit de compétences publiques. Et si vous pouvez éclairer le premier point sur la rationalité, le deuxième point sur comment bouge le privé par rapport au public, ce serait intéressant.
Bon, ça va pas être très drôle, parce que globalement, je suis à peu près d'accord avec vous, donc en termes de débat, on va pas aller bien loin. Je suis d'accord avec vous, j'ai été assez réservé hein, sur la question de l'adaptation. C'est plutôt une stratégie de renforcement hein, de l'appareil productif. Les logiques... Alors, moi, je vous ai dit, j'ai aucun intérêt lié avec Domaine Skiable de France, etc. Mais j'écoute, hein, je lis ce qu'ils publient. Enfin, je veux dire, c'est très intéressant pour comprendre les logiques, hein, bien sûr. Et donc, la logique, c'est plutôt une logique de renforcement dans un contexte, alors, qui, à mon avis, est pas mal fantasmé de concurrence internationale. Donc, en réalité, quand vous vous promenez en Suisse ou en Italie, vous vous rendez compte que, globalement, l'appareil productif est beaucoup plus ancien, beaucoup plus vieilli qu'en France. Hein. Vous avez énormément de remontées mécaniques dont on n'a plus l'équivalent depuis 20 ans ou 30 ans chez nous. Et globalement, par ailleurs, ça n'est pas le marché le plus concurrentiel qui soit, parce qu'en réalité, à l'échelle de l'Europe hein, et des Alpes, on a des marchés qui sont assez segmentés, et donc la clientèle allemande, de toute façon, elle va en Autriche et en Suisse alémanique, ou éventuellement dans le Tyrol du Sud, et donc globalement, nous, on la voit pas arriver chez nous. Donc la question de la concurrence internationale sur le marché des sports d'hiver, c'est un petit peu, à mon avis, un écran de fumée, et globalement, je pense qu'aucun d'entre vous n'est jamais allé skier en Suisse, hein, en Chine, pardon, excusez-moi. Donc voilà, les Chinois, ils développent leur station pour leur marché intérieur, mais on n'est pas dans une position concurrentielle. Hein, c'est pas trop la réalité des choses. Donc voilà, c'est un renforcement avec, en tout cas, un discours très fort sur la concurrence entre les différentes stations françaises, qui par ailleurs, pour les plus grosses, c'est-à-dire celles qui ont le plus de moyens d'investissement, font quand même partie du même groupe. Hein, donc en l'occurrence, pour la majorité d'entre elles, la Compagnie des Alpes. Donc c'est une concurrence à l'intérieur d'un holding qui regroupe une dizaine de sociétés d'exploitation. Alors après, voilà, je suis aussi nul en économie qu'en droit, hein, donc j'irai pas beaucoup plus loin sur ce terrain-là, mais on voit bien que effectivement ça pose des tas de questions. Je pense que le problème effectivement, en tant que citoyen qui nous concerne le plus, c'est effectivement la place que prend l'argent public dans ces questions-là. Tout à l'heure, j'ai fait une ellipse rapide sur le télécabine mixte téléphérique du Gendry, hein, donc aux Deux Alpes, qui est une espèce de monstre d'un point de vue technique, je ne sais pas, mais d'un point de vue de l'investissement, puisque c'est 140 millions d'euros pour une remontée mécanique en deux tronçons, lissé sur deux ans, hein, sur le bilan 23 et 24. Donc c'est énorme, hein, globalement, cette remontée mécanique toute seule, elle pèse à peu près un quart de l'investissement total de tous les domaines skiables en France une année. Donc c'est quelque chose qu'on n'a encore jamais vu. Et pour faire un petit pont avec ce que disait Mélanie, 140 millions pour une remontée mécanique, un espace d'interprétation et de restitution comme celui de la grotte Chauvet, c'est 47 millions. Donc c'est presque trois fois moins cher de se doter de ce genre d'équipement que d'une seule remontée mécanique dans une station de sport d'hiver. Hein, il faut avoir un petit peu ce genre d'équivalent de ce que c'est que la capacité d'investissement. Et là, en l'occurrence, on est sur une SEM, hein, donc on est sur une société d'économie mixte qui couvre les stations de Loisans, qui est la SATA, donc à l'origine Alpes d'Huez, et puis qui a repris ces dernières années donc à la fois les Deux Alpes et la Grave, quand ça fonctionne, puisque là c'est arrêté. Et donc effectivement, c'est des choix qui sont portés par la puissance publique, là en l'occurrence par l'intercommunalité de Loisans, et donc qui renforce, hein, en quelque sorte, cette monospécialisation autour de cette seule activité des sports d'hiver. Donc je suis tout à fait d'accord sur le côté extrêmement discutable de ces stratégies, avec une petite nuance quand même avec vous, bien que je connaisse aussi les rapports de la Cour des comptes et ce genre de choses. Par ailleurs, si on sort du domaine des sports d'hiver, moi, je ne suis pas forcément obsédé par la question du déficit. Je veux dire que les équipements publics, à partir du moment où la loi Montagne dit que les remontées mécaniques et les sports d'hiver, c'est le domaine public du tourisme, le service public du tourisme, où ce sont des collectivités qui le prennent en charge, l'établissement dans lequel nous sommes n'est pas bénéficiaire, ne dégage pas de bénéfices. Une piscine, une patinoire, etc., on ne leur demande pas de dégager des bénéfices. Donc ça, c'est un argument à la fois... Je vois les millions et les dizaines de millions qui partent de la région PACA et qui partent de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour renforcer ce système, et forcément ça pose question. Mais en même temps, je me dis aussi que c'est pas scandaleux que la puissance publique, elle finance aussi les activités. Alors, pour autant, on peut discuter la notion de service public avec des forfaits à 70 euros. Donc il y a plein de discussions. Hein. Moi, j'ai pas trop de religion là-dedans. Hein. Je vois tous les problèmes que ça pose. Hein. Donc est-ce que, évidemment, le prix d'entrée à la piscine n'est pas exactement le même que le prix d'un forfait, y compris géré par une société d'économie mixte détenue par le département. Donc voilà, il y a des tas de problèmes en cascade. Hein. Mais après, le fait que la Cour des comptes pointe la question du déficit comme quelque chose de gravissime, ça fait aussi partie du rôle de la puissance publique d'animer les territoires avec des activités, y compris si elles ne dégagent pas de bénéfices. Enfin voilà, moi j'en fais pas un critère absolu et définitif.
En attendant, une nouvelle question, j'en ai une. On parle d'usagers de public. Est-ce qu'on est sur des mêmes typologies de public? C'est-à-dire que vous avez parlé tout à l'heure des folies douces. Est-ce que ce sont les mêmes qui participent aux folies douces qui vont ensuite faire des visites archéologiques en Maurienne?
Alors, je suis pas adepte des folies douces, alors j'imagine le public assez fêtard, mais c'est pas antinomique avec le patrimoine, je pense pas. Par rapport au type de public, donc c'est vrai que sur les visites là pour l'instant qui sont mises en place, et notamment en lien avec l'espace là qui a été créé dans le fort Victor Emmanuel. Il y a un accompagnateur moyenne montagne qui s'est saisi cette opportunité pour partir de l'espace aménagé et aller sur le parc archéologique d'Elos, qui est pas très loin à pied, ça se fait très bien, pour proposer des visites de nuit ou au crépuscule, puisque c'est le moment où en fait les roches gravées avec une lampe frontale en lumière rasante vont le mieux ressortir. Donc c'est vraiment un dispositif de visite très sympathique. Donc c'est sûr que ça s'adresse plus aux familles. On est beaucoup plus sur un public famille que sur un public 30-40 ans sans enfants à faire la fête. Donc, ça, c'est sûr que là, ça se rejoint pas forcément. Après, si on repart sur des espaces de médiation comme par exemple quelque chose comme un espace de restitution, on reprend l'exemple là, de la grotte Chauvet, au niveau de la fréquentation de la grotte Chauvet, vous avez aussi le public de la folie douce qui va visiter ce type de site. Donc ça dépend aussi du type de produit que vous allez penser. Là, actuellement, effectivement, la manière aussi dont ce type de patrimoine est mis en avant à l'échelle de la Haute-Maurienne, c'est réservé à, effectivement, public famille ou un public de connaisseurs. Après, il y a des sites, comme par exemple la pierre au pied, la plateforme là, qui avec les empreintes de pied là, qui ont été excavées. C'est quand même une randonnée assez physique. Donc là, on va dire que les usagers de la folie douce, ils ont les compétences sportives, je pense, pour monter, admirer ces empreintes. Mais après, voilà, c'est une question aussi de promotion. Le public, il vient en fonction aussi de ce qui va être mis en avant et des produits qui sont offerts. Donc je pense pas qu'on puisse se dire bon, ben, y a pas le public pour créer quelque chose. C'est toujours la question de la poule et de l'œuf aussi, hein.
Merci. Bonjour. Merci beaucoup à tous les deux pour vos interventions. Je voulais savoir qu'est-ce que vous pensiez d'une candidature au JO d'hiver 2030. Est-ce que ça pourrait aider dans un bon sens le tourisme en montagne?
Moi, je peux juste dire du point de vue plus du si on regarde ce qui s'est passé en 92 par rapport au patrimoine. Parce que là, on n'est pas dans de la prospective, on est sur quelque chose qui s'est passé. En 92, les JO ont permis un développement plus large du territoire. Et on a eu beaucoup de projets qui ont été lancés à ce moment-là pour valoriser différents types de patrimoine en Savoie. Donc ça apporte un intérêt pour le territoire. Donc après, il y a la question aussi des coûts environnementaux, ça c'est sûr. Hein, donc Christophe a déjà abordé la question. Moi, j'irai pas. On peut pas à ce stade-là, c'est difficile de se positionner. Donc après, par contre, c'est sûr que nous, du point de vue de la recherche en géographie et territoire de montagne, on suit très attentivement les débats, les prises de position des uns et des autres pour arriver à comprendre les conflits. Autour de ce projet. Après, qu'est-ce qu'on en pense? C'est difficile de se positionner par rapport à ça, parce que là, vous nous demandez en tant que citoyen, alors que nous, là, on est là en tant que chercheur, par rapport à des recherches qui sont documentées sur des choses qui se sont passées.
Oui, bonjour, merci beaucoup pour vos présentations. Alors j'ai deux questions. La première, c'est par rapport à l'emploi dans la région. Parce que vous avez parlé de 18 000 emplois. Je voudrais savoir comment est-ce que ça se répartit, parce qu'il y a l'emploi saisonnier. Est-ce que les 18 000, c'est uniquement des locaux, ou est-ce que ça prend en compte, est-ce que c'est 18 000 sur l'année, ou est-ce que c'est seulement pendant les saisons? Et après, j'ai été très intéressée par votre exemple sur l'art rupestre, d'autant plus que je connais un guide de moyenne montagne qui travaille à la Vallée des Merveilles, enfin bref. Mais le problème, c'est que pour moi, la question des stations de ski, c'est avant tout un problème d'hiver et du maintien du système de remontée mécanique, etc., de marketing pour la saison d'hiver. Or là, l'exemple en question, c'est quand même plutôt une valorisation estivale, enfin, il me semble. Voilà, c'est les deux questions que je me posais.
Évidemment, ça vous parle pour tout le secteur du tourisme de sport d'hiver. Et donc, globalement, de mémoire, c'est entre un peu plus d'un quart de permanent et un peu moins de trois quarts de saisonnier. Sur la provenance géographique des uns et des autres, je n'ai pas de lumière là-dessus. Il faut vous dire que j'avais travaillé ça en 2018-2019 parce qu'à l'époque, dans les tableaux de bord que publiait DSF chaque année, il y avait une statistique assez précise, enfin moi je la considérais comme précise et fiable parce que j'ai pas moyen de faire autrement, sur le nombre d'emplois saisonniers, le nombre d'emplois permanents. Et ça m'est arrivé à deux reprises dans ma petite carrière de chercheur qu'en publiant et en mettant en lumière des chiffres qui par ailleurs étaient publics, j'ai réussi à faire tarir la source d'information. Donc à partir de cette date-là, cette colonne a disparu du tableau. Donc je n'ai pas les moyens évidemment d'aller chercher d'autres sources. Donc cette information, elle a disparu du domaine public depuis 2019. Donc je ne sais pas comment ça s'est suivi. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'au cours des années 2010, le nombre d'emplois dans le domaine strict des remontées mécaniques, il a eu tendance à baisser, même de façon assez significative, parce que vous avez eu beaucoup de travaux de réorganisation des domaines skiables, de remplacement de remontées mécaniques anciennes, plusieurs par une seule remontée mécanique moderne, et donc avec le souci, comme dans beaucoup de domaines industriels, de faire baisser la masse salariale. Alors par ailleurs, on a beaucoup de remontées mécaniques qui ont fermé quand même, y compris dans des stations de sport d'hiver qui continuent à fonctionner. Donc on a moins de remontées mécaniques qu'il y a 20 ou 30 ans en arrière. Et donc globalement, ce type d'emplois qui sont des mécanos, des techniciens, qui vont contribuer au fonctionnement des remontées mécaniques, ce type d'emploi, il baissait progressivement au cours des années 2010. Et comme je le dis, je n'ai pas de chiffres plus récents.
Et pour la deuxième partie enfin, pour votre deuxième question, je pense que c'est une question aussi d'échelle à laquelle on se situe. C'est si on se situe à l'échelle de l'ensemble du territoire, déjà, qu'est-ce que c'est à ce niveau-là? Est-ce que c'est on raisonne par vallée? Est-ce qu'on raisonne à l'échelle du département ou à l'échelle du massif? Et puis après aussi de l'échelle annuelle, enfin l'échelle temporelle. Est-ce qu'on est en raisonne sur saison ou est-ce qu'on passe sur les quatre saisons ou même de penser encore plus large? Donc, le ciseau, de toute façon, là, cette paradoxe du ciseau, il va nous inviter à sortir de ce cloisonnement-là et à raisonner à d'autres types d'échelles. Donc c'est à ce titre-là que ce type de tourisme autour du patrimoine peut être une piste de diversification. Parce que je pense, les différentes recherches montrent que pour sortir de ce paradoxe-là, il va falloir raisonner autrement spatialement et temporellement les développements des territoires.
Nous arrivons au terme des échanges, ça passe très très vite, mais par contre on vous garde encore quelques minutes pour un mot de la fin, pour un message que nous pourrions emporter sur cette thématique du tourisme de doux et de l'avenir de nos territoires de montagne en termes de développement touristique. Bon, une minute et demie. Hein.
Moi, ce qui me frappe quand on lit et qu'on écoute des choses autour de la question du tourisme de sport d'hiver, c'est quand même, la plupart du temps, ce sont des messages qui sont quand même extrêmement simplificateurs. On a vu que dès qu'on commence à creuser, il y a beaucoup de contradictions, il y a des arguments qui vont dans un sens, qui vont dans le sens opposé. On parle d'approche systémique, si l'on veut, mais peut-être le risque, ce serait de tout réduire aux impacts du réchauffement global, qui sont très importants, mais qui prennent du sens par rapport à toute une série d'autres contextes, qui sont aussi le fait que les sports d'hiver, à l'échelle sociale, alors nous, si on est tous savoyards dans la salle, on va dire on est les plus mal placé, hein, pour parler de ça. Mais si on est normand, si on est picard, c'est, il est évident que les sports d'hiver prennent dans la société médiatique, etc., une place beaucoup moins importante qu'il y a 50 ans. C'est beaucoup moins présent dans les médias, etc. Donc, il est évident que si on imagine que dans la société globale, en dehors de la Savoie, les sports d'hiver continuent à occuper la place qu'ils occupaient dans les années 70, on se met le doigt dans l'œil jusqu'à la troisième phalange. Donc, si vous voulez, et ça, on n'a pas attendu des effets concrets du réchauffement global pour voir effectivement, parce que les modes passent, parce qu'il y a d'autres activités, hein, parce que regardez comment aujourd'hui on parle du surf, par exemple, hein, sur la côte basque ou sur la côte landaise, qui a pris une place énorme qui n'existait pas il y a 30 ans. Vous avez des tas de médias généralistes, pas des médias spécialisés, qui parlent en permanence du surf à Biarritz. Bon ben voilà, c'était à peu près la place qu'avait le ski il y a 50 ans. Et donc effectivement, les centres d'intérêt, d'un point de vue sportif, d'un point de vue des loisirs, eh bien de fait, ils évoluent. Et aujourd'hui, on n'a certainement pas... alors pour des tas de raisons, hein, parce qu'on a fermé les centres de vacances, parce qu'on a fermé les classes de neige, enfin il y a des tas de raisons qui font que vous avez aussi des générations qui se sont détournées ou qui n'ont pas eu l'occasion d'aller en direction des sports d'hiver. Alors, tu m'as dit une minute que j'ai dû dépasser, mais il y a quand même un exemple qui est extraordinaire, moi, que j'ai déjà fait des excursions avec les étudiants, c'est à Champs-Rousses, le village de Bachaboulou. 8 immeubles qui avaient été construits au début des années 60 et qui ne faisaient que de l'accueil de centres de loisirs, de classes de neige, avec des immeubles qui appartenaient à des communes de la banlieue lyonnaise et à des communes de la banlieue parisienne. Ils faisaient toute l'année là-dessus. En 2006-2007, à l'époque où c'est Transmontagne qui gérait Champs-Rousses, ils ont considéré que c'était pas rentable, que les droits à bâtir, c'était compliqué à obtenir. Le village de Bachaboulou, il a été rasé, et c'est un investisseur néerlandais qui a construit de l'hébergement. Donc voilà, on s'est coupé aussi, progressivement, de la possibilité de renouveler les clientèles, et ça, neige ou pas neige, isotherme à 1000 mètres ou à 1600 mètres, c'est indépendant de cette question-là. Donc voilà, il y a plein de facteurs hein, qui interviennent et qui font qu'aujourd'hui, effectivement, ben, les sports d'hiver ils sont d'une certaine façon menacés par le fait que le système sur lequel ils s'étaient construits ne fonctionne plus comme il fonctionnait il y a 40 ou 50 ans en arrière. J'ai le temps de répondre ?
Oui, alors 30 secondes.
Il est évident que depuis 40 ans, Le volant de croissance hein, des stations, et en particulier des grandes stations d'altitude en Tarentaise ou autour du massif du Mont-Blanc, ça a été la capacité à faire venir effectivement des clientèles étrangères. Alors pas forcément très lointaines, parce que globalement, la très grande majorité des clientèles elles sont quand même européennes, hein, mais éventuellement d'aller commencer à prospecter du côté d'Indiens ou du côté de Brésiliens, etc., qui sont visibles dans le paysage, mais qui statistiquement restent quand même relativement peu de choses. Hein. Les Russes sont encore présents, mais eux, pour le coup, ils sont un peu plus discrets qu'ils ne l'étaient il y a 10 ans en arrière, mais ils sont présents en station. Voilà, le potentiel... il ne faut pas lire le tourisme de sport d'hiver à l'aune de ce qu'est le système mondial du tourisme. Hein, c'est-à-dire que, jusqu'à présent, le tourisme de sport d'hiver n'a jamais créé de grands flux intercontinentaux. Les Américains du Nord skient globalement dans les Rocheuses. Hein, beaucoup de stations des Appalaches ont fermé. Les Asiatiques, eh bien, ils vont skier au Japon, éventuellement un petit peu en Chine. Et puis globalement, dans les Alpes, dans les Pyrénées, en Scandinavie, il y a principalement des clientèles européennes. Donc là, ce serait quelque chose qui est envisageable, mais tout à fait différent de ce qu'on observe aujourd'hui, d'imaginer des grands flux intercontinentaux qui soient motivés par les sports d'hiver. On traverse la planète pour aller voir le Taj Mahal ou la Tour Eiffel, mais pas pour aller skier à la planète.
Merci, ça c'est la chute. Merci infiniment. Je rappelle simplement, comme tu as quelques exemplaires, c'est que Christophe Gauchon avec Xavier Bernier sont les auteurs de l'Atlas des Mondiales, donc une petite référence sur le sujet. Merci Mélanie également du mal d'être venue parmi nous. Prochain rendez-vous entre midi et science, donc ben, dans un mois, autour de la thématique du sommeil et des apprentissages. Et sinon, bah, la galerie Eureka reste ouverte hein, malgré les travaux. Donc vous avez l'Expo Mars jusqu'au mois de mars. Ensuite, nous parlerons de Louis Pasteur. Merci à vous.